Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, l'émission où on parle de trucs Marvel, mais pas forcément que, peut-être qu'un jour on parlera d'autres choses, mais là, c'est vraiment du Marvel avec le retour des films dans les vrais cinémas et aussi peut-être sur vos télés. On a vu Black Widow deux fois dans mon cas, je suis Patrick, bonjour à tous, et une ou deux fois dans le cas de Johan, est-ce que tu t'es payé le luxe de le voir une deuxième fois ?
Alors, j'y suis retourné, c'était pas planifié du tout, j'aurais peut-être pas choisi Black Widow, mais j'ai pas eu le choix, et donc j'ai revu Black Widow.
Tu nous spoil un petit peu ton avis, du coup, là.
Un tout petit peu, mais pas tant que ça. Allez.
D'accord, ok. Écoute, un grand merci de te réveiller un dimanche matin, très tôt, comme je disais, au service des auditeurs. J'apprécie beaucoup ton sacrifice, un petit peu comme un super-héros du podcast. Tu sacrifies ton matin pour être présent avec nous. On va faire une petite partie sans spoiler, peut-être, pour vous parler de Black Widow, donc, qu'on va passer en revue, qu'on va détailler, on va vous donner nos impressions, notre avis, les choses qui nous ont plu ou pas plu, une petite partie sans spoiler, et puis ensuite une plus grosse partie, j'imagine, avec spoiler, encore que, qui sait, peut-être qu'elle ne sera pas très longue. Est-ce que ça te convient, ce programme, Johan ? On se lance comme ça ?
Bien. Ouais.
Super. Donc, bah, du coup, puisque tu as commencé à nous spoiler ton avis, pour la partie sans spoiler, hein, je rappelle, alors, évidemment, si vous voulez rien du tout savoir de rien, il vaut quand même mieux même pas écouter la partie sans spoiler, parce que moi qui suis obsessif, je sais que si on dit des trucs parfois, ça peut laisser penser que ceci ou cela, mais on va quand même faire de notre mieux pour faire aucun spoiler dans la partie sans spoiler, et puis après on aura une partie plus spoilerifique. Donc sans spoiler, ton avis, Johan, sur Black Widow, après peut-être qu'on peut aussi parler un petit peu du contexte, puisque un an et demi sans cinéma, ou presque, en tout cas sans film Marvel, qu'est-ce que tu as pensé de Black Widow, dis-moi.
Eh ben alors déjà, c'était très chouette hein, de revoir le logo Avengers, là, avec tous les extraits de tous les films sur grand écran et tout.
Donc, le logo Marvel,
ça me fait quelque chose quand même, ça m'a fait quelque chose de voir ça dans une salle. En plus, j'étais dans une salle, alors, c'était la fin des restrictions chez nous, hein, et donc on était dans une salle remplie à 100%.
Aïe, ok.
avec des gens qui mangeaient leur popcorn sans masque et tout. Donc au début, j'avoue que j'étais un petit peu mal à l'aise. Mais il y avait un groupe de filles juste à côté de moi et elles étaient à fond la caisse et c'était communicatif en fait et du coup je pense que ça a amélioré mon expérience sur Black Widow et du coup j'ai quand même pas mal aimé en fait.
Mais attends, elles étaient à fond la caisse, elles étaient genre elles applaudissaient quand on voyait Scarlett Johansson arriver, elles criaient de joie, qu'est-ce qu'elles...
Alors pas à ce point-là, mais elles retenaient tu sais des soupirs ou des nerdgasmes, des fois des trucs comme ça, des trucs comme ça, et tu vois genre vraiment elles vivaient le truc quoi. C'était top, quoi.
Très bien, d'accord. Pour moi, juste avant que, du coup, on prolonge le plaisir, moi, je l'ai vu au cinéma, dans mon petit cinéma de province, vraiment minuscule. J'ai mis une photo sur Twitter, vous verrez, c'est vraiment tout petit. Et il y avait, malgré, tu sais, en Finlande, on est quand même très strict et prudent et bien vacciné et tout. Enfin, pas forcément plus qu'en France, mais les gens sont sérieux. Et donc, il y avait encore des séparations dans la salle avec un rang sur deux et une place sur deux. Mais par contre, les gens avaient tous enlevé leur masque quand ils sont arrivés. Tu sais, je me suis retourné. Moi, j'aime bien être devant. Je me suis retourné. J'ai vu qu'il n'y avait plus personne qui avait son masque. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc ça, c'était... c'était un petit peu stressant, mais bon, au final, ça s'est bien passé. Enfin, je crois, hein, je sais pas. On verra dans 15 jours si
rendez-vous,
j'ai
rendez-vous dans 15 jours.
mais je l'ai vu une deuxième fois à la maison avec ma femme en le payant sur Disney Plus, Première, machin. Et ça m'a coûté 22 euros. C'est peut-être un petit peu plus cher en Finlande qu'en France, je sais pas. Mais franchement, c'est un super deal pour 20 euros. C'est le prix de presque en fonction de où tu vas, une ou deux places de ciné, presque. Et c'est vraiment un très bon deal. Je sais que c'est disponible en France, je crois aussi, exceptionnellement.
Non, non, non.
Ah non, c'est pas disponible.
Non, non.
Ah,
non,
d'accord.
C'est que au cinéma.
Okay. Ok, bah nous on a pas de chronologie des médias, donc on peut le voir tranquillou à la maison et c'était très bien de pouvoir faire ça et du coup de le revoir avec ma femme. Mais et il y avait moins de gens sans masque du coup. Enfin, il y en avait deux, moi et ma femme, mais mais du coup c'était moins stressant. Bref, donc voilà pour l'expérience et donc pour le film, qu'en as-tu pensé?
Bah je disais effectivement, j'ai été quand même globalement agréablement surpris. J'en avais parlé rapidement au dernier épisode et j'attendais vraiment pas grand chose. J'attendais même à être vraiment à pas aimer quoi. Finalement j'ai trouvé ça bien. Je trouve que c'est un peu inégal, c'est-à-dire qu'il y a une partie du film que je trouve très bien et puis une autre partie du film que je trouve pour le coup pas bien. Parfois pas bien du tout et parfois pas bien et du coup dans l'ensemble, ça fait qu'il y a une partie du film que j'ai quand même beaucoup aimé, et ce qui fait que j'en retire un peu quand même du positif là-dedans. Quoi.
Ça, au final, ça s'équilibre plutôt du côté plus que du côté moins, quoi.
Ouais, ça va, ça s'équilibre du côté, je suis content de l'avoir vu et tout ça. Tu vois, j'y réfléchis souvent les films du MCU, j'y pense souvent de cette façon-là. Je me dis, le jour où je me refais un binge de tout le MCU pour le plaisir.
Ouais, comme tu fais tous les 6 mois, quoi, à peu près.
Alors, moi, je fais tous les ans et demi, 2 ans. Bon, ça dépend selon l'actu du MCU, tu vois.
Ouais.
S'il n'y a pas trop de choses à voir. Mais, et ça fait partie des films, je pense, que je ne regarderai pas, tu vois. Ça fait quand même partie des films que j'intégrerai pas à un binge parce que, bon. C'était chouette à voir, mais bon, sans plus, quoi, tu vois.
Ouais, du coup, au deuxième visionnage, tu disais, t'y es retourné, t'avais pas forcément envie. C'était pour le voir avec ta femme,
ouais.
Ou c'est des potes qui...
C'est ça, ouais. C'est ça. Bah, du coup, c'est ça. Comme on était complètement libre, puisqu'on n'a pas notre fille, on voulait aller au cinéma et il n'y avait pas... Vu l'horaire, il n'y avait pas un choix incroyable. Et du coup, voilà, on y est retourné. Moi, j'ai retourné, c'était la première fois pour ma femme, du coup. Et elle a beaucoup aimé, elle, de son côté. Et puis, donc, voilà. Donc,
ah, elle a beaucoup aimé, d'accord. Mais c'est important.
Elle a beaucoup aimé.
D'accord. Ouais. Ok. D'accord, très bien. On va évidemment en parler plus en détail dans un instant. Mais de mon côté, je suis un peu sur la même longueur d'onde. Il y a certaines parties que j'ai beaucoup aimées, certaines parties qui étaient vraiment décevantes. Certaines occasions manquées carrément. Je trouve que le film est dans la moyenne du MCU, c'est pas un qui me déplaît vraiment parce qu'il y en a qui sont vraiment mauvais, je pense à Thor 2 ou même toi tu me dis que tu aimais bien Ant-Man 1, moi je le trouve un petit peu faible Ant-Man 1, mais Iron Man 2 par exemple est pour moi vraiment pas super. Je dirais qu'il est au-dessus de ça. Mais qu'il aurait pu être, c'est dommage, parce qu'il aurait pu être vraiment encore meilleur. Il aurait pu être vraiment deux crans au-dessus s'ils avaient fait quelques petites modifications qui semblaient assez évidentes. Et on ne sait jamais comment ça s'est passé, surtout avec la pandémie. Le film devait sortir il y a un an. Peut-être qu'ils ont dû changer des trucs. Peut-être qu'ils n'ont pas dû, ils n'ont pas pu refilmer certains trucs parce qu'on a souvent des... Quand tu vois un film, je ne sais pas si c'est le cas souvent chez Marvel, mais dans le cinéma en général, tu peux faire des reshoots, aller retourner quelques scènes quand tu te rends compte qu'une fois monté, ça ne marche pas super bien. Peut-être que là, il y a eu des trucs qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, on ne sait pas. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je me dis, il y a à quelques éléments près, ils auraient pu avoir un bon film. Et là, malheureusement, il y a certains trucs qui tombent à plat ou qui tombent à côté. Et c'est un petit peu dommage. Et par rapport à mes attentes, c'est vrai que moi, j'attendais pas grand-chose. Et sans, encore une fois, spoiler, j'attendais pas grand-chose. Donc, j'ai été plutôt agréablement surpris. Donc, est-ce que je le recommanderais aux gens dans l'ensemble ? Je crois que si les gens ne sont pas fans du MCU, ce n'est pas vraiment un film que je recommanderais. Si on n'aime pas ce genre de film, ce n'est pas un... je sais pas, une série d'Avengers ou même le premier Iron Man ou un Spider-Man, où tu dis oui, là tu peux y aller, il n'y a pas de problème, il est super cool. Celui-là, je dirais, ça risque de faire sourire un peu, mais c'est pas la peine de, tu vois, bifurquer dans son chemin de vie pour aller le voir si on n'est pas déjà client, quoi. Et quand je l'ai revu avec ma femme a été un petit peu comme toi et moi, mais plutôt en penchant, au final, c'était moins... Elle était déçue, on va dire. Et c'est peut-être qu'en y réfléchissant, elle changera un petit peu son avis, parce que déjà ce matin, elle me disait « Ah ouais, il y avait tel truc qui était sympa, tel truc qui était sympa. » Mais dans l'ensemble, elle a été déçue, surtout par rapport à... pas au traitement du personnage dans le film, mais à la destinée de Black Widow. Elle trouve que c'est pas digne du personnage. Et je vais pas plus rentrer dans les détails, mais on peut en parler dans la partie spoiler. Donc, à moins que tu aies autre chose à ajouter dans la partie sans spoiler.
Il faut bien comprendre que le film, il a en réalité deux objectifs. Donc son objectif principal, c'est effectivement de parler du passé de Natasha. Et son deuxième objectif, c'est de présenter un nouveau personnage. Et ces deux objectifs-là, pour moi, sont... Bon, le contrat est rempli, alors avec plus ou moins de succès. Mais du coup, ça se fait, je trouve, quand même au prix d'une intrigue qui pourrait être intéressante pour quelqu'un qui n'avait pas vu les autres films, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voit que Black Widow, je vois pas quel intérêt il pourrait retirer, en fait, de ce film-là, parce que... Voilà, le reste autour de ces deux objectifs-là, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu service minimum, quoi. Donc, t'as des bonnes scènes d'action, voilà, notamment au début, mais ça dépasserait pas un Mission Impossible ou un James Bond, qui sont du coup un peu les modèles du film. Ouais, et donc voilà.
C'est vrai qu'on est très dans cette... D'ailleurs, il y a des références dans le film à cette tendance de film d'action. Et c'est vrai que dans ce, t'as tout à fait raison, dans cette catégorie de films, action, espion, machin, James Bond, les derniers possiblement, et puis Mission Impossible surtout, le font mieux. Ça, c'est indéniable. Donc, ok. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fini pour la partie sans spoiler. Maintenant, on va pouvoir se lâcher, on va pouvoir y aller à fond et dire exactement ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé, ce qui nous a plu ou pas. Donc là, tout de suite... C'est, avec spoiler, éteignez votre app de podcast si vous n'avez pas déjà vu le film. Ou alors, vous pouvez, si vous en foutez, continuer à écouter. je pense que... Bon, je te laisse peut-être commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de... tu parlais de deux parties, enfin deux éléments. Peut-être que c'est l'ouverture, parce que c'est... J'ai l'impression que tout le monde a eu, quoi.
Ouais, alors pour moi, il y a trois ou quatre parties en fait assez distinctes. T'as effectivement l'ouverture, voilà, le tout début, hein, avant le générique complet de Black Widow.
L'intro. Donc,
voilà, l'introduction. Après, bon, on va les repasser en détail, hein, mais c'est juste pour les identifier.
Pour les catégoriser.
Après,
ouais.
Voilà. Après, il y a effectivement, on retrouve du coup Natasha, juste après Civil War, et puis elle va retrouver sa sœur. Donc ça, pour moi, c'est une partie, hein, qui est très, très action, d'ailleurs. Et ensuite, c'est là où, pour moi, ça bascule un peu. Il y a les retrouvailles avec Red Guardian. Et ensuite, le départ vers la Red Room. Et donc, effectivement, il y a ces deux premières parties-là que... Alors, j'étais un peu soufflé, parce que vraiment, le début, c'est faut s'accrocher, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas joyeux, quoi. C'est assez hard. Déjà, effectivement, la scène de tout début, hein, qu'on voit venir, hein, quand on connaît le passé de Natasha, on comprend que c'est elle. Et donc, elle fait son enfance avec sa sœur et ses parents dans l'Ohio. Ça a l'air de très bien se passer, et puis tout à coup...
Au moment où, comme on sait qu'elle est russe, au moment où il rentre dans la pièce, le père, et qu'il dit « Ouais, non, ça y est, on a une heure », tu comprends ce qui se passe, surtout si t'as vu The Americans, la série. Et tu comprends ce qui se passe, et là, tu te dis « Oh merde, non !» Et c'est... Ouais, vas-y, continue, j'en parlerai après.
Ouais, et puis tu sens quand même un peu le déchirement que ça constitue à la fois pour j'ai oublié Mélina, c'est
Mélina, ouais.
Mélinda, Mélina, c'est ça, Mélina, et puis surtout Natacha qui elle comprend aussi ce qui se passe, alors que pour le coup la petite sœur elle est beaucoup plus jeune et elle doit pas, elle sait pas du tout ce qui est en train d'arriver. Et là, ils s'en vont, et puis derrière, voilà, il y a cette scène affreuse au sens vraiment, je trouve ça assez horrifique, de l'arrivée à Cuba où du coup Red Guardian, ça y est, ils s'en fichent de Milena qui est blessée, les filles qui comprennent pas, qui machin, et puis t'as le cut vers le générique complètement affreux avec ces enfants qui sont enlevés. Tuer, etc. Enfin bref, le début quand même. Je veux dire, là effectivement pour du MCU, je sais pas si on a eu un truc aussi dark en fait jusqu'ici quoi.
Ouais.
Et de ton côté, ça, cette intro.
Ah bah elle est incroyable. Elle est incroyable cette intro. Franchement, on est à un niveau. Je crois que c'est la meilleure intro depuis Guardians of the Galaxy qui en 2 minutes te pose une ambiance et des enjeux pour un personnage, t'explique la vie d'un personnage. Guardians, elle était super bien. Et là, elle est, je crois, c'est possiblement la meilleure intro d'un film du MCU. En intro très courte, quoi. Là, c'est 5 minutes ou quelque chose comme ça. Et j'étais assez soufflé, ouais. Et en la revoyant, tu te rends compte à quel point le truc est fait avec soin et avec sérieux. D'autant plus que le jeu de... comment il s'appelle? Harbour? Quelque chose Harbour? Le père, combien le jeu est juste et subtil en contraste total avec ce qu'il devient après
Exactement,
dans la deuxième partie. Moi, je l'appelle intro, première et deuxième partie, les trucs. Mais ouais, c'est d'une qualité assez époustouflante. Moi, j'ai été très surpris et je me suis dit, waouh, attends, ok, ça, je m'attendais pas à ça. Et du coup, ça a fait monter mes attentes sur le film de manière assez drastique. Et oui, donc oui, j'ai adoré cette intro. T'as déjà donné les détails, mais
Et puis
tout est
il y a
parfait,
ce
quoi.
moment où il dégage un truc devant l'avion
Ouais.
et que tu comprends que c'est un super soldat. Enfin, moi je savais pas du tout, hein, et du coup j'étais vraiment, ah ouais, on est vraiment dans le MCU, ça y est. Enfin, tu vois, il y a aussi ce moment un peu super pouvoir très, enfin, je vais dire discret. C'est pas discret, mais c'est
Non,
pas
mais c'est
grand-chose quoi dans le
subtil.
MCU. Mais voilà, c'est un petit coup de main et paf, ça fait dégager le truc. Et
Et c'est
tu
ça, c'est
comprends du coup
que
que c'est
ça
parce que je
insiste pas
sais.
beaucoup. Ça insiste pas beaucoup, tu vois. C'est juste, oh, il dégage le truc, il le balance, et c'est terminé. Donc tout de suite, tu comprends ce qui se passe, quoi. C'est pas, regardez, Alexei, machin, c'est un super soldat, c'est non, pff, machin. Et le jeu d'acteur de la Nat jeune, qui est d'ailleurs, j'ai appris récemment, la fille de Mila Jovovich. On reconnaît
Ouais,
un
c'est ça.
petit air de famille.
Ma femme disait, ah, mais elle ressemble à Mila Jovovich. Et effectivement, on l'a regardée après, c'était
Ouais.
effectivement sa fille.
Et elle est, mais elle est, c'est dingue, quoi. Elle a quel âge? Elle doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus.
Ouais, elle doit être ado quand même, je pense.
Ouais. Mais elle est, c'est incroyable. Et tu sais, généralement, dans les productions américaines, la grosse différence avec les productions françaises, et je stand by ce que je vais dire, c'est que dans les productions françaises, souvent, les acteurs sont pas bons. Et d'une manière générale, c'est rare de trouver un vrai bon acteur. En ce sens que, en France, tu écris encore avec un héritage du théâtre et tu joues encore avec un héritage du théâtre. C'est-à-dire que tu n'essayes pas de retranscrire dans ton film ou dans ta série ou ce que c'est, la manière dont ça se passerait dans la vraie vie. C'est très ampoulé, c'est très exagéré, les gens se mettent à gueuler, se traiter de connard, et peut-être que les gens font comme ça dans la vraie vie, mais. Tu vois, tu te dis pas, ah ouais, mais ça, c'est vrai. Et dans les films américains, dans ces moments-là, ça fait passer une émotion qui est tellement authentique que ça peut pas ne pas te toucher. Et tous les acteurs, la majorité des acteurs sont bons, y compris les enfants. C'est incroyable la manière dont les enfants sont bons souvent dans ces films-là. Et là, la jeune Nat, elle te fait passer le truc, son inquiétude pour sa petite sœur, son angoisse, le fait qu'elle veuille pas y retourner. Et, j'étais admiratif, quoi, vraiment.
Alors, je suis obligé d'intervenir parce que bon, les acteurs français qui sont pas bons, non, mais ça va pas, Patrick. c'est juste des façons différentes de jouer. Hein. Tu l'as expliqué, tu l'as par contre bien expliqué après, mais effectivement, il y a un style et un héritage, un jeu qui est quand même différent. Et de la même manière que si tu regardes des productions chinoises ou japonaises, tu auras aussi des styles de jeux très, 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 très différents. Par contre, pour les enfants, je suis d'accord. Les nôtres sont pas bien du tout. Et c'est vrai que là, ça marchait super bien. Quoi.
Bah, disons,
c'est
oui,
toujours un peu difficile, les enfants même dans les films américains, en vrai. Hein. Quand les enfants sont au centre des choses, en général, je suis un peu moins convaincu. Mais là, vu la séquence et comment elle est filmée, je trouve que ça rend, pour les enfants, ça rend vraiment super bien. On est avec eux et on vit un petit peu leur mésaventure,
leur tragédie,
assez difficile.
Ouais.
Ouais,
et la scène avec quand ils sont dans la voiture, et on pourrait reparler du but du jeu d'acteur, et est-ce que c'est de rendre une image réaliste de cette situation ou pas, mais bon, bref, ça serait peut-être pour un autre épisode, mais la scène dans la voiture où ils entendent, c'est American Pie, je crois, le nom de la chanson,
ouais, c'est ça.
Et où elle voit le match de football américain qui est en train de... Tu vois, et tu sens, et tu comprends du coup pourquoi elle a voulu revenir aux États-Unis plus tard, que c'est là que son enfance était ancrée, c'est là qu'elle était heureuse après son passage dans la Red Room et puis son retour dans la Red Room. Du coup, tu comprends vraiment pourquoi elle est revenue, pourquoi elle a voulu perdre son accent, pourquoi elle a perdu son accent. C'est... Je sais pas, je trouve que ça fonctionne. Ouais. Donc, bon, on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps sur l'intro,
ouais,
mais je crois qu'on a été assez clair.
Il y a une chose à noter, puisque tu parles d'accent, c'est que justement, ils n'ont pas d'accent. Enfin, ils parlent un américain correct. Et juste après, c'est quelques années après, mais et tout est perdu après, quoi. Après, quand ils se parleront entre eux plus tard, ça sera avec des accents russes à couper au couteau. Et j'ai pas bien compris pourquoi ils ont fait ça.
Bon, tu peux dire que quand ils étaient dans l'ambiance du truc américain, ils sont évidemment obligés de perdre leur accent pour pas se faire détecter, et ils sont dans l'ambiance du truc. 20 ans plus tard, ils ont repris l'accent. Mais du coup, pourquoi ils se parlent pas en russe entre eux? Bon, bah c'est parce que ils parlent jamais dans la langue. Oh, oui, c'est sûr.
Ça, le russe, tu comprends, parce que effectivement, c'est un film. Il faut que les spectateurs comprennent, et je sais que les sous-titres sont, enfin. C'est difficile de faire parler des personnages avec sous-titres aux États-Unis. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris. Je sais qu'il y a certains films qui l'osent, comme Avatar l'osait. Oui. Mais bon, ça, à la limite, je l'accepte. Mais effectivement, je trouve que c'était un peu dommage de pas.
Il y a d'autres solutions. Spécifiquement, je regardais la vidéo de Captain Popcorn sur le sujet qui disait tu peux toujours faire des trucs comme. Il commence en russe. Et puis, petit à petit, tu vois, au bout d'un moment, il passe à l'anglais et tu comprends qu'en fait, il parle russe, mais il parle... Bon, moi, ça me gêne pas trop, tu sais, c'est comme dans les jeux Assassin's Creed où il parle anglais avec l'accent du pays dont, ou dans lequel le jeu se situe. Moi, ça me gêne pas plus que ça, disons. Mais oui, je comprends la préoccupation, on va dire.
Du coup, après, on retrouve Natacha dans une séquence...
21 ans plus tard.
De poursuite avec le général Ross.
Qui était pas mal foutu, pas mal monté aussi. Tu sens la tension. Et puis quand elle sort sur le bateau, c'est vraiment... it makes you look desperate, tu sais. Mais elle le ridiculise, quoi, le général Ross. Enfin, qui est même pas général, qui est là secrétaire à la défense, je crois. Un truc du genre. Mais... ouais, et donc là, c'est le début de la partie où elle va se reconnecter avec sa petite sœur. Je ne sais pas si on a besoin de passer scène par scène, mais dans l'ensemble...
Non, mais on peut dire, hein, du coup, elle va en Norvège se mettre un peu à se cacher, en fait. Hein,
Ah oui, on est après Civil War, donc elle est recherchée par les États-Unis.
Ouais, c'est ça, elle est recherchée, et elle a un contact hein, qui l'a fourni en matériel, en différentes choses, et qui lui ramène un carton de Budapest, Ça va être sur Budapest et Budapest, que je trouvais ça assez marrant. Et dans ce truc-là, il va y avoir bah, du coup l'objet du film, hein, qui est l'espèce de gaz qui permet
Libérer les Black Widow.
Ouais, c'est ça, de libérer les gens qui sont prisonniers d'une
Ouais.
Lavage mental.
On n'a pas parlé
Chine.
de la scène d'action justement à je crois que c'était à Budapest, je sais plus. Non, peut-être pas. Au
Oui,
Maroc, au Maroc, au Maroc.
c'est au
C'est au
Maroc,
Maroc.
c'est au Maroc. Ouais, c'est ça.
Et justement de la libération de Yelena, il y a un truc qui m'a marqué. C'est complètement accessoire, hein, mais je sais pas pourquoi ça m'a marqué. C'est dans le combat entre Yelena et Oksana,
Ouais.
elle lui met un couteau dans le ventre. Elle retourne le
Et le
couteau
tourne.
et elle tourne le couteau et elle le bouge. En fait, elle lui ouvre le ventre
Ouais,
complètement.
c'est ça.
Tu sais, elle met le couteau et puis elle le passe sur le côté et elle lui ouvre le ventre en deux, tu sais. Et là, je me suis dit, mais enfin, je sais que c'est un film Marvel, mais normalement, il y a les tripes qui sortent, tu sais. Là, c'est vraiment, enfin, c'est Harakiri,
Ouais.
quoi. C'est
Ouais.
seppuku. Et ça m'a marqué qu'il n'y ait même pas une goutte de sang, tu vois, dans le truc. Je sais pas pourquoi, c'est un peu anecdotique, mais ça m'a marqué, c'est vraiment... Et puis, il n'y a rien qui sort, pas une goutte de sang. Bref, c'est Disney, hein, c'est normal. Mais...
Par contre, le combat est très très bien d'ailleurs.
Bah, d'une
Je
manière
trouvais que ça augurait du
générale...
bon. Ouais,
Ouais.
d'une manière générale, les combats sont pas mal. Pour moi, le problème arrive avec Taskmaster, mais on y reviendra.
Bah on va en
Mais
parler, mais dans cette première partie, moi je le trouve bien,
ouais.
Taskmaster. La première apparition de Taskmaster, elle est super. Il est, là encore, on a une super chorégraphie des combats. Quand elle. On va pas, encore une fois, on fait pas une série, une review, un after show de série, mais
Ouais.
la première chorégraphie avec Taskmaster, elle est super bien. On comprend pas ce qui se passe, il analyse un peu, et ça augure là encore d'un truc. Ok, ils vont utiliser, parce que pour ceux qui savent pas, Taskmaster est un personnage des dessins, des comics, qui a, bah, un petit peu comme dans le film, qui peut mimiquer exactement, même en regardant une seconde, les techniques de combat
Et
de n'importe qui est en face de lui. Donc on se dit, il va y avoir combat miroir, machin.
Du coup, tant qu'il n'est pas appelé en mission, il est coincé dans une pièce. Enfin, elle, du coup, parce qu'on sait que c'est une femme. Elle est
Ouais.
coincée dans une pièce à binge-watcher en boucle Avengers. C'est ce que j'ai noté. Elle est forcée à
Ouais.
regarder Avengers en boucle jusqu'à
Mais
ce
pas
qu'elle ait
que
quelque chose à
Avengers.
faire.
Elle regarde
Ah
aussi au minimum Civil War, puisqu'elle a les ou
bah oui.
Black
Ah
Panther,
oui.
tu vois, c'est tous les films du MCU. Et t'as remarqué que on a un film, enfin ce qu'elle regarde, c'est pris sans doute par drone ou par satellite super zoomé. Parce que c'est vraiment vu du dessus, le combat entre Black Panther et Hawkeye. Donc, bref, c'est un détail. Donc oui, on a cette première partie, et puis le combat à Budapest, quand Natasha retrouve Yelena. Je dois dire que le rythme est un peu rapide quand même, même déjà à ce stade, et je pense que c'est l'un des défauts du film. Ça avance et j'ai été surpris parce que quand je suis sorti du film la première fois, j'avais l'impression qu'il avait fait 1 h 30. En fait, il fait plus de 2 heures.
Il est
C'est
long, hein.
inclus le générique qui fait 2 h 15. Donc, il est déjà relativement long quand même. Du coup, je comprends pourquoi ils doivent aller vite, mais ils vont quand même assez vite. Ça s'enchaîne pas mal. Et du coup, c'est l'un des problèmes du film, je trouve. Ils n'ont pas le temps de faire certaines choses qui seraient nécessaires pour que ça se... Comment dire,
Il
pour
y a
que
les
le truc
retrouvailles
prenne.
de familiales en fait qui après derrière sont assez très
Ouais.
posées et qui justement et puis quelques dialogues aussi entre les deux sœurs
Bah.
pour avoir cette fonction on va dire de laisser
Ouais.
respirer un peu le rythme. Mais c'est vrai que le début il est très haletant, on n'arrête pas, en plus on va de pays en pays
Un
pour
peu à la
enchaîner les
Captain
scènes d'action
America.
quoi. Voilà, et puis bah, du fait, il y a ce personnage. On découvre ce personnage de Yelena que je trouve vraiment génial. J'ai adoré ce personnage. J'ai vraiment très envie de voir d'autres choses avec elle là.
Ah oui?
Ouais, très badass, très, très drôle et tout. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. Et évidemment, je pense qu'une des choses que les gens auront retenu, c'est cette blague Enfin, cette blague, cette blague, ce running gag en fait dans le film sur justement la pose, la fameuse pose iconique de Black Widow quand elle atterrit en atterrissage de super-héros et qu'elle relève la tête. Et donc il y a plusieurs fois où il y a eu des références à ça et autour de Yelena justement et enfin, j'ai trouvé ça vraiment génial.
Et la première, je dois mentionner à quel point ça fonctionne parce que elle est subtile à un point. Enfin, la manière dont elle le fait, dont elle fait la référence, tu sais, la première fois où elle est hyper. Elle est complètement cassée, elle. pardon.
Ah
Elle
ouais.
est complètement cassée, elle est.
Ouais, elle est blessée, tout ça.
Elle est blessée. Et elle regarde sa sœur et lui dit hey, mais pourquoi tu fais ce truc avec là encore un accent très léger, mais. Et tu sais, elle est à la fois blasée, c'est la petite sœur un petit peu chiante,
Ouais.
et elle est un peu blasée, et elle est. Elle dit pourquoi tu fais ce truc, mais quel truc c'est avec la tête là quand tu. Et puis elle se met un peu à terre pour le montrer, mais elle a un peu mal et elle le fait pas genre comme un super-héros, elle le montre genre mais c'est n'importe quoi, tu vois. Et ça fonctionne super bien. Florence Pugh. Le nom de
Oui,
l'actrice.
l'actrice.
Et je suis d'accord, je trouve qu'elle est parfaite parce qu'elle est une Black Widow badass, méchante, enfin méchante, badass, énervée. Et en même temps, elle n'est pas du tout, tu peux pas la confondre avec l'autre Black Widow, tu vois. C'est vraiment son propre
Voilà.
personnage. Alors que sur le papier, c'est la sœur de Black Widow et elle est une Black Widow. Et voilà, c'est ça son écriture, tu vois. Donc je trouve que ça fonctionne vraiment de manière assez admirable, quoi. Donc cette première partie, dans son ensemble, moi je l'ai trouvée très réussie. Pas si tu es d'accord.
Ouais, alors du coup, moi, il y a effectivement, alors je trouve vraiment, même les scènes d'action, comme je l'ai dit, hein, jusqu'aux retrouvailles avec Guardian, sont vraiment top. Là, on se croirait dans les courses-poursuites, on est vraiment dans des trucs comme Jason Bourne, etc. Enfin, c'est très haletant, les caméras sont très proches des personnages, on est vraiment au cœur de l'action et j'ai trouvé ça. Enfin, là, à ce moment-là du film, j'étais vraiment en train de me dire waouh, mais c'est fou quoi,
Tout
c'est vraiment
fonctionne.
cool. Tout fonctionne, ouais. Et là, les soucis arrivent. On rejoint Red Guardian, du coup, et à partir de
Ouais,
là, du
juste
coup, on va.
pour mon avis d'ensemble sur cette première partie, tout fonctionne à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'action est vraiment bonne. Je dirais pas que c'est les meilleures scènes d'action du MCU, mais elles sont vraiment efficaces. Et puis surtout, les retrouvailles entre Natasha et Yelena sont parfaites. La relation se construit entre les deux, ça marche. Elles sont énervées l'une contre l'autre, mais en même temps, il y a la complicité qui renaît un petit peu. Et puis, donc, ça marche à ces deux niveaux, tu vois, l'action et la relation entre la famille, en fait, qui se reforme de Natacha. Et puis, elle décide, OK, bon, on va aller libérer Alexei, et là, je te laisse reprendre, ouais.
Ouais, bah du coup c'est ça, ils vont libérer Alexei pour ensuite aller rejoindre j'ai oublié son
Mélina.
nom, Melina, la pauvre. Et là, je trouve qu'il y a un vrai problème qui apparaît dans le film. C'est à la fois sur les effets. Je trouve que la scène d'action justement, ils sont où? Ils sont en
Quelque
Sibérie.
part en Sibérie, certainement, ouais.
Ouais, c'est ça. Ils sont en Sibérie. Alors la scène n'est pas trop mal au début, surtout au début. L'évasion, je trouve qu'elle marche assez bien. Mais après, t'as la démesure en fait qui commence à arriver dans le film. Avec une explosion qui va déclencher une avalanche. Et là, j'ai l'impression qu'on va pas repartir de ce point-là, quoi. C'est-à-dire maintenant qu'on a lancé les avalanches. Bah, il faut des CGI, il faut des explosions gigantesques, il faut faire tomber un château du ciel
Volant, ouais.
sur Terre. Enfin, tu vois, vraiment, là, pour moi, c'est vraiment l'escalade et on quitte ce format très, justement, je disais un peu Jason Bourne, très terre à terre au cœur de l'action et on va arriver dans quelque chose, justement, d'un peu plus, un peu plus exagéré, un peu plus. Voilà, un petit peu, peut-être par. Pas tu sais les James, certains James Bond qui font ça aussi et je trouve pas que ce soit les meilleurs James Bond et voilà et je trouve ça vraiment dommage et en plus de ça On a malheureusement un Red Guardian qui finalement ne fait office que de
De
comic
bouffon.
relief, de bouffon.
C'est vraiment bouffon, là. C'est pas juste un mec qui fait des blagues, tu vois. C'est,
Ouais,
on
c'est
se
ça.
moque, on rit de lui. Ouais, je te laisse finir.
Déjà, il faut le dire, hein, c'est quelqu'un d'assez affreux. Hein, c'est un personnage assez affreux. Hein, on l'a vu au début du film. Hein, je veux dire, il rentre,
Il pense qu'à
il laisse ses
lui.
filles. Il pense qu'à lui, il laisse ses filles aller à la Red Room. Enfin, ses filles, même si c'est pas ses vraies filles, mais et il s'en fiche de sa partenaire qui est à moitié mourante quand il arrive. Et là, c'est pareil, quoi. Il les retrouve. Tu sens tout est centré autour de lui. Donc, il a vraiment. Voilà, on a envie de se moquer de lui parce que justement c'est quelqu'un d'assez affreux, mais du coup lui-même est aussi un peu ridicule. Il ressasse des combats imaginaires qu'il a eus avec Captain America, et voilà. Donc c'est pas un personnage qu'on a envie d'aimer déjà. En plus de ça, il a fait des choses affreuses, et en plus de ça, bah c'est un bouffon, quoi. Il dit, enfin. Tout ce qu'il dit, effectivement, c'est jamais. Et d'ailleurs, il y a même une auto-référence à ça plus tard, hein, où je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais à la toute fin, elle lui demande s'il a quelque chose à dire. Il dit, ah non, non, je gâcherais tout
Ouais.
si j'ouvrais la bouche. Et donc, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a parlé jusqu'à là, c'était soit pour faire une blague, soit pour se rendre ridicule. Et je trouve que ça va pas, quoi. C'est trop, en fait.
Ouais.
Ça va trop loin, quoi.
Ouais. Je suis assez d'accord. Et je pense que l'avis général est assez. Comment dire? On a le consensus là-dessus. Il y a deux grosses fautes, et on peut peut-être parler de la deuxième. Il y a deux grosses fautes pour moi dans le film, et ça, c'est clairement la première. Il aurait suffi. Ça m'a beaucoup fait penser, en fait, à Thor dans Infinity War, qui est complètement pathétique du début à la fin. Alors, il n'est pas aussi. C'est un des éléments de l'histoire, mais il est pathétique, énervant, énervé du début à la fin de l'histoire Ah, pardon! Oui, si, c'est bien dans Infinity War. Et il.
C'est pas Endgame plutôt?
Non, non, je pense vraiment à
Ok.
Infinity War, où
D'accord.
il est juste triste, tu vois, tout le temps, et il fait des blagues, mais il est triste. Et puis, il y a un moment où il est assis dans le vaisseau avec Rocket Raccoon, et où il dit. Il a un moment hyper saisissant, émouvant, où il dit, en gros, oui, mais tu vois, j'ai peut-être. J'ai plus rien à perdre. Donc, il m'a pas. Thanos, il m'a pas. Il s'est jamais battu contre moi. Et Rocket lui dit, bah si, il s'est battu contre toi. Mais il a dit, il s'est jamais battu contre moi deux fois. J'ai vécu 1500 ans. Il y en a plein qui pensaient pouvoir me tuer. Et je les ai tués à la place. J'ai perdu ma mère, mon père, mon frère, tout le monde, tu vois. Et il y a ce moment où tu ressens quelque chose pour le personnage. Et moi, pendant tout le film, pendant Black Widow, j'attendais un moment comme ça avec Red Guardian. Tu vois où il fait le bouffon, il se dit. Et je me suis dit, bon, bah là, quand elle va dans la chambre, Yelena, je me suis dit, bah il va aller dans la chambre et il va lui dire un truc qui va te montrer qu'il a quelque chose, peut-être un regret dans son cœur de la manière dont ça s'est passé il y a 20 ans, ou une raison pour laquelle il est à ce point incapable de se laisser ressentir des choses. Tu vois, un truc. Et en fait, ça vient pas. Et il continue à faire le bouffon, et il continue, et il continue. Alors, il y a le moment où il chante la chanson, où c'est un petit peu
Oui, en
genre,
fait,
il
c'est
se.
ça, la chanson, c'est, à mon avis, c'est le but, c'était de faire ce que tu disais, quoi. C'était, la chanson
Ouais.
est censée représenter le passé, représenter la relation qu'il avait avec sa fille, il lui mettait la cassette, etc. Mais ça marche pas parce qu'on connaît pas assez bien ses personnages, tu vois, contrairement à Thor, où on a quand même vécu pas mal de choses avec lui. Et du coup, en fait, c'est un des reproches que je fais, en fait, au film, c'est que, je veux dire, Black Widow n'a pas de passé, en fait, jusqu'à ce film, quoi. Et donc, on nous invente toute sa famille, frère, sœur, mère, père, et au bout d'une heure, on veut qu'on ressente des choses pour eux, mais tu vois, on vient de se rencontrer, quoi, tout nous, quoi, tu vois.
Moi, je
Et
crois
je
que
trouve que.
je crois que ça aurait pu marcher avec le Red Guardian si dans cette scène, par exemple, il y avait eu cette intensité émotionnelle qui avait réussi à passer. Et je pense pas que c'est parce qu'on n'a pas eu assez de temps avec eux. Je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas réussi. Le truc de la chanson, bah, ça prend pas. C'est juste genre, ah ouais, ok. Mais c'est pas ça prend pas. Et ils n'ont pas réussi à trouver le moment émouvant, ou peut-être qu'ils ne leur ont donc pas donné, il fallait 3 minutes de plus pour laisser le temps au truc de s'installer. Mais ça ne prend pas, parce que le film n'est pas assez bien foutu, tu vois.
Juste après, bah, du coup, là, c'est le moment où, en fait, il se réconcilie avec, avec Elena. Hein. Et juste après, il va tenter aussi de parler à Black Widow, à Natasha, et en fait c'est tourné au ridicule parce que c'est finalement c'est pas Natasha qui est avec lui, c'est Lina qui est utilisée. Et puis après il réessaye de nouveau, mais il a pas d'oreillette alors qu'il croit qu'il en a une. Enfin tu vois, c'est,
je suis d'accord. Ça,
tu vois, on aurait pu avoir ces scènes un peu émouvantes, etc. Mais voilà, le film ne lui laisse pas sa chance, quoi, en fait.
Exactement, ouais. Et même quand juste après la scène où il chante, il y a l'occasion pour lui de faire un truc et de protéger sa fille, et même ça c'est tourné en blague et aux dépens de Red Guardian, et avec les tranquillisants qu'il fait, genre il en a un, il fait vous pensez que, et tu vois, une scène comme ça, ça aurait pu être marrant si c'était mieux rythmé, s'il n'y avait pas eu que ça, mais là c'est complètement relentless, c'est sans arrêt. Lui, il est tourné en ridicule. Et je me demande si... Et bon, d'une manière générale, cette scène de famille dysfonctionnelle aurait pu vraiment fonctionner, justement, si on avait eu un petit peu plus de temps avec eux pour établir leur relation, s'il y avait eu un moment où ils n'ont pas forcément besoin de tout mettre sur la table, tu vois, de dire « Ah oui, mais vous nous avez abandonnés, mais machin, ça n'a pas besoin d'être aussi grossier que ça. Ça aurait pu être plus subtil. » Mais là, il n'y a rien. Il n'y a ni subtil ni grossier. C'est juste, on passe dans une dynamique de famille dysfonctionnelle qui est marrante, mais qui n'a pas le poids émotionnel qu'elle aurait dû avoir pour que ça fonctionne vraiment. Tu vois, en fait, et j'en parlais avec ma femme, elle était encore plus dans cet avis que moi. Elle disait, on ne prend pas le temps. Il aurait fallu 10 minutes de plus pour que ça porte cette relation. Et là, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas fait ça, eh ben, c'est pas tout qui s'effondre, mais ça a juste la valeur comique, alors que ça aurait pu avoir une valeur tragique en même temps. Et j'imagine que c'était un choix. Mais
c'est un reproche qu'on fait quand même régulièrement au MCU, hein, c'est-à-dire de toujours tout désamorcer avec des blagues, etc. Donc, je pense qu'effectivement, ça reste quelque chose de parfaitement voulu par Marvel, hein, parce que depuis le temps qu'on fait les reproches, je pense qu'ils l'ont entendu. Mais du coup, effectivement, je pense qu'il y a ce besoin de divertissement chez Marvel là-dessus. Quoi.
Je suis pas d'accord avec ça. Généralement, il y a effectivement le coup de désamorcer avec des blagues, mais il y a souvent, alors pas tout le temps, mais les fois où ça fonctionne vraiment, il y a une vraie émotion qui passe. Moi, je peux te citer plusieurs films, que ce soit Spider-Man, par exemple. Il y a une émotion énorme qui passe quand il est enseveli sous les débris, dans le premier, et où il est confronté au sacrifice qu'il doit faire s'il veut être ce qu'il veut être. Tu vois, c'est un moment émotionnellement fort. Il y a le moment avec Thor dont je parlais dans Infinity War. Même dans Iron Man 3, je trouve que Iron Man 3 est un super bon film parce que ça explore la difficulté qu'a Tony Stark à vivre en tant que Tony Stark et Iron Man après ce qui s'est passé dans Avengers. Tu vois, il y a... Alors, c'est quelques exemples, peut-être que c'est les seuls, mais je suis pas d'accord. Il y a dans Guardians of the Galaxy une émotion qui passe énormément malgré ou avec l'humour. Donc, c'est vraiment possible à faire. Là, je pense que c'est pas juste « Ah ben, c'est du MCU, donc ça marche. » Tu vois, donc ils ont fait non, un petit pas de côté avec le truc, mais je pense que ça aurait
raison,
été possible.
T'as raison qu'il y a eu parfois, il y a effectivement des exemples où soit ça a marché en l'état, même avec la blague. En fait, il y a des fois une blague, ça peut ne pas couper l'émotion d'une scène. Hein. Parfois il y a pas du, des fois il y a des moments où il y a pas de blague. C'est arrivé, quoi. Mais je trouve quand même que ça reste ça reste, on va dire, un tic du MCU de vouloir forcément
faire des blagues. Et je trouve notamment dans Guardians of the Galaxy, moi, c'est pas une partie de mes films préférés non plus. Mmh. Et je trouve que le potard, il est trop loin dans la blague souvent.
Ouais.
Là où il pourrait y avoir des scènes un peu plus fortes sans forcément qu'on rigole, quoi.
Bon, écoute, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce film-là, bah, ça prend pas, ça marche pas. Et je trouve que c'est vraiment un moment où c'est pas juste ils auraient pu faire un truc émouvant, mais ils auraient dû. C'était indispensable pour que le film fonctionne comme il avait commencé. Tu vois, là, c'est vraiment à ce niveau-là. Ça se casse un petit peu la gueule. Bon, maintenant, moi, je trouve que ça se casse pas la gueule à tous les niveaux. Il y a tu vois, la famille reste marrante. Je trouve que cette équipe qu'ils forment est plutôt sympathique. Je trouve que le swap entre Mélina et Natacha, tu le vois pas venir. C'est bien foutu. Et la scène avec Natacha qui manipule Dreykov et fonctionne vraiment aussi. Alors, on pourrait dire, ouais, je l'ai vu venir ou non. Moi, je ne l'avais pas forcément complètement vu venir, ou tu comprends pendant le truc, mais ça reste bien foutu. Et je la trouve pas trop mal. Les scènes d'action continuent à être correctes. Les scènes où, tu vois, j'ai trouvé dommage qu'ils ne jouent pas plus avec ça, mais quand elle se bat, Natacha, avec... Taskmaster, pendant qu'ils sont en train de tomber, malheureusement ça dure que 10 secondes, ils auraient pu en faire une scène encore plus spectaculaire, mais je trouve que ça fonctionne pas mal, tu vois, tu retiens un peu ton souffle. Les deux problèmes qui restent, je trouve, c'est, et on pourra parler peut-être du traitement des hommes dans le film et pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais Dreykov est un méchant de James Bond. Et je sais qu'ils font un petit clin d'œil, une référence au truc, mais je trouve que c'est dommage, parce que c'est vraiment caricatural, et trop, pour le coup. Disons que le thème du film et tout l'aspect, je ne sais pas si on peut dire féministe, c'est pas vraiment féministe, mais antisexiste à la limite... Lui, c'est vraiment le producteur graveleux qui fait « il y a des filles qui viennent dans mon bureau, s'il faut, si elles veulent tourner dans des films, il faudra passer sous le bureau, tu vois ?» Et genre, immonde,
dégoulinant. C'est Weinstein, quoi.
Voilà, exactement, c'est Weinstein. Et c'est un peu trop. Et de la même manière, je me demande si... On pourra parler de Taskmaster après, mais... Je me demande si le fait de se dire Red Guardian va être inutile et bouffonnesque du début à la fin, c'est pas aussi une volonté de se dire bon, on a un film avec des femmes et on va faire. C'est vraiment un film sur les héroïnes de cette histoire. Tu vois, c'est pas un film sur Red Guardian et du coup, peut-être que c'est pour ça qu'ils ont décidé de le rendre inutile à chaque moment. Et là aussi, je trouve que c'est trop. Et Dieu sait que je suis féministe et antisexiste et que j'ai insulté le MCU pour le traitement qu'ils ont fait des femmes pendant des années et que c'était une honte que Wonder Woman réussisse avec le premier Wonder Woman avant le MCU à mettre une femme en avant de cette manière. Bref, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais là... C'est ridicule, quoi. Tu vois, ça nous sort du film carrément quand c'est à ce point-là.
Ouais, d'ailleurs, il y a eu un affrontement entre Red Guardian et Taskmaster. On aurait pu penser que c'était le bon moment pour justement faire un peu autre chose de ce personnage-là, quoi. Et même dans ce combat-là, tu sens que c'est pas terrible, quoi, qu'il se fait un petit peu. Qui se fait un petit peu avoir. Donc, ce personnage-là est vraiment, je trouve, gâché. Et je trouve que, bah, du coup, on peut parler rapidement, enfin, rapidement ou pas, mais des deux méchants, enfin, les deux antagonistes du film, qui sont Taskmaster et, du coup, effectivement.
Vas-y, Dreykov. Sur Dreykov, et puis après, on enchaîne sur.
je te rejoins complètement. Hein, et comme tu le dis, c'est complètement voulu. Hein, c'est-à-dire, c'est un méchant de James Bond dans sa tour d'ivoire. Je crois que la référence est Moonraker, hein, qui est donnée au tout début, et on est un peu dans cette idée-là, quoi. C'est le truc qui est pas sur Terre, donc il est dans le ciel avec son château gigantesque, Et oui, c'est très caractéristique, c'est très James Bondien. Donc pourquoi pas? Moi, ça m'a pas forcément dérangé, hein, si ce n'est le côté des mesures. Mais effectivement, moi, je trouve assez pathétique ce méchant. C'est vraiment, je tue des petites filles. Tu vois, c'est. Et en plus, son plan, je le trouve vraiment nul, quoi, d'utiliser son truc chimique sur des femmes. Dans le monde entier, si t'as ça, autant le mettre directement sur des dirigeants ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, ça, je trouve que
Non,
son
il faut
plan,
les,
et ça,
il faut les
c'est les plans.
conditionner depuis l'enfance et puis il y en a une sur 20 qui survit.
Voilà.
Ça, je suis pas. Je peux comprendre que
Ouais.
tu. Et puis tu te dis, bon, pourquoi que des femmes? Clairement, il a un problème avec ça. Hein. Il
Ouais.
doit avoir un problème avec sa maman, tu vois. Mais à la limite, tu peux dire, bon, les femmes, elles passent plus inaperçues, personne fait attention à elles, et puis elles peuvent manipuler, séduire, machin. Si le personnage avait été mieux construit, et s'il n'était pas aussi caricatural, à la limite, pourquoi pas? Et en plus, ça aurait donné encore une fois une profondeur dramatique à l'action de Black Widow, qui aurait été beaucoup plus intense, beaucoup plus importante.
Voilà.
Donc même dans leur relation, ça te sort du truc.
Voilà. Et du coup, j'arrive à un point, moi, qui me chagrine beaucoup pour Natacha. C'est que du coup, Natacha, on l'a connue. On l'a connue comme cette femme espion qui a eu, du coup, qui a fait des choses pas jolies, hein, dans sa vie d'avant, qui est vraiment sur, on va dire, une morale grise, hein, normalement, qui a travaillé longtemps pour l'ennemi, qui du coup essaye, et c'est un peu tout son travail jusque dans l'MCU, son pauvre arc sert à ça, c'est vraiment de chercher cette rédemption par rapport à son passé. Et du coup, là, on en apprend plus et on découvre qu'effectivement, son grand péché, ça avait été d'avoir sacrifié la fille de Dreykov. Pour faire exploser une bombe pour le tuer à l'époque où elle voulait rentrer dans le Shield. Et je trouve dommage en fait que son grand péché en fait bah c'était un peu pour rien parce que ni Dreykov ni sa fille n'étaient morts et du coup tu vois je trouve que je trouve que ça amenuise beaucoup on va dire le poids on va dire qu'elle pourrait porter quoi. Tu vois ça fait un petit peu
Ah
en
bah en
plus
fait, c'était pas
c'est son
grave,
Ouais, en
personne
fait,
n'est
non,
mort,
elle
tout
avait
va
rien, elle
bien.
avait tué personne et voilà, et elle était super gentille, tu vois. Il y a un peu ce côté, au lieu de chercher la rédemption, enfin, au lieu d'avoir retrouvé sa rédemption, elle annule, enfin, on lui
Ouais,
annule son
son
péché, quoi,
péché,
tu
ouais.
vois. Et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, ce qui me fait arriver à Taskmaster, hein, du coup, qui est la fille de Dreykov, voilà, qui l'a mis une puce. Dans le cerveau, machin. Voilà, je trouve que c'est vraiment le très 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 gros gâchis du film. Si ses combats sont pas mal au début, je trouve que le personnage est pas très intéressant, contrairement à ce que voilà, moi quand je me suis renseigné un peu sur Taskmaster, il y avait quelques concepts de ce personnage que je trouvais vraiment intéressant. Hein, juste pour dire rapidement, c'est un personnage du coup bah, qui assimile tout ce qu'il voit. Et du coup, son cerveau fait la place pour les nouvelles choses qu'il voit. Et du coup, il perd la mémoire en fait de son identité petit à petit. Tu vois, et je trouve que c'est un chouette concept à explorer. Et bon, ça c'est balayé. C'est juste finalement une fille, voilà, qui est contrôle mental. Enfin, je sais plus comment on dit
Oui,
en
il peut
français, mais
contrôler,
voilà,
oui, c'est
qui
bien.
est contrôlée et puis qui fait ce qu'on lui dit. Et ça va pas plus loin. Et sur la partie, j'apprends les combats des autres, je trouve que c'est pas assez bien mis en évidence, quoi. J'aurais aimé des plus beaux combats, de meilleures références justement aux
Non, mais
différents
tu fais un
combattants
euphémisme,
d'Avengers.
criminel, Johan. C'est pas juste que c'est pas très bien mis en. Elle est complètement gâchée. Après une première scène qui
Ouais.
fonctionne, mais ils s'en servent pas, juste pas du tout. Du tout. Il n'y a plus rien. Le seul truc qu'elle fait, c'est montrer qu'elle a les griffes de Black Panther.
De Black Panther, ouais.
Elle les sort et puis plus rien. Il y a une fois, elle tire une flèche comme Hawkeye et c'est tout. Et dans le premier, elle a le bouclier, voilà, un petit peu de Captain
Ouais.
America. Ok, super, mais. Mais je veux dire, s'il y avait eu que ça, et puis qu'après il nous avait montré effectivement, elle se bat avec le triple coup de pied de Black Panther dans
Bah
une scène.
oui.
Enfin, mais je comprends pas. Il y avait tellement d'occasions d'en faire quelque chose de. Là, c'est au-delà du côté intéressant du personnage, d'en faire quelque chose de badass pour le Taskmaster. je comprends pas comment ils ont réussi à ne pas faire ça. Il aurait pu, je sais pas, avoir une scène où il utilise les trois, tu vois, trois techniques de combat différentes en même temps. Où il lance le bouclier, il tire une flèche dessus, ça revient, ça, tu vois, il rebondit et puis ça vient dans le dos de l'ennemi. Il saute et il fait Black Panther, ou il lance un marteau, tu vois. J'en sais rien. Il y avait mille choses à faire. Je me demande s'ils ont pas un autre personnage qui va genre imiter ou mélanger les styles de plusieurs persos en même temps, et que c'est pour ça ils se sont dit oh ça fera doublon, donc ne le faisons pas. Mais c'était incompréhensible pour moi. C'est
autant,
pas le plus
autant
important.
La résolution, ouais, autant la résolution où finalement ça se finit pas par le combat parce qu'on la libère, je trouve ça très bien. Hein. Je trouve ça, bah, en plus, pour le message qu'essaie de faire passer Natacha de libérer les autres. Donc c'est très bien, mais effectivement, le chemin jusqu'ici, c'est un peu dommage. Quoi.
Ouais, pour elle, enfin pour ce personnage, il est vraiment vraiment gâché, je trouve. Et c'est très décevant parce que là encore, un petit peu comme pour Red Guardian, je pense que ça aurait pas. Alors je suis pas scénariste, hein, je travaille pas à Hollywood, mais il me semble que ça aurait pas été si compliqué que ça de l'utiliser un petit peu mieux. Alors c'est peut-être des scènes d'action très chères, ils avaient plus de budget ou j'en sais rien. Mais c'est vraiment, c'est clairement dommage. En tout cas, le résultat, c'est que le personnage de Taskmaster est très décevant, alors qu'il aurait pu être beaucoup plus cool, quoi. Et sur la question de, moi, j'ai effectivement beaucoup aimé le fait que Natacha gagne sur Dreykov, encore avec sa technique d'espionnage de folie, et sans la violence, et qu'en fait, elle avait tout compris depuis le début et qu'elle savait ce qu'il fallait faire. Et ça, j'ai bien aimé. Mm. Enfin, sans la violence. Elle lui tape bien dessus après, quand même. Il l'a mérité. Mais
bien sûr. Et oui, elle y va justement avec des skills d'espion et de tromperie. Et voilà, moi, c'est aussi ça que je veux voir. Quoi. J'aime bien quand les personnages utilisent leur capacité caractéristique pour déjouer des épreuves. Quoi. De toute façon, j'ai trouvé ça quand même assez bien que ça se passe comme ça. J'en viens donc au dernier méchant, le méchant secret, que tu n'as peut-être pas vu, je ne sais pas. Pour moi, c'est Mélina. Qui est vraiment.
Ah, tu crois que c'est un méchant, Mélina ?
Ah, attends, je vais m'expliquer.
Okay.
Pour moi, c'est un problème que j'ai commencé à relever justement pendant WandaVision. J'ai l'impression que Marvel a un problème avec. Alors, pareil, je vais pas le dire en français, tu sais, le accountability.
Ouais.
Mélina, c'est quand même la personne qui a mis en place la Red Room, qui a. Créer le produit qui contrôle tout ce monde, qui a aidé à fabriquer la forteresse, les prisons, qui est vraiment l'architecte en fait de tout ce système là quoi. Je trouve que c'est ultra sous-traité quoi. C'est-à-dire, je sais qu'il y a ce dialogue avec Natacha où elle lui dit t'es né en cage, etc. Mais là, pour le coup, s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de rédemption, c'est bien ce personnage-là, quoi. Elle a envoyé combien de milliers de filles à l'abattoir. En plus, on voit bien que c'est un personnage qui est quand même assez malsain, quoi, quand elle fait venir le cochon et qu'elle lui empêche de respirer pendant 30 secondes juste pour son explication et tout. Et j'ai trouvé ça fou que elle devienne hop tout à coup gentille. Parce que du coup, c'est aussi pour ça que je m'étais fait avoir, hein. C'est-à-dire que quand ils se font capturer et qu'ils partent et que finalement Natacha c'est Mélina et inversement, ce qui fait que pour moi j'ai mordu sans même y penser, c'est que pour moi il y a aucune raison. Enfin, j'avais déjà identifié ce personnage de Mélina comme vraiment affreux, quoi.
Ouais. En plus, quand tu revois le film, tu te rends compte qu'elle agit beaucoup plus comme Mélina que comme Natacha. Elle dit, par exemple, là, maintenant, tu comprends pourquoi Dreykov a été insaisissable pendant tant d'années. Genre comme si elle savait qu'il y avait la forteresse volante. Ou...
Oui, enfin, bref,
c'est pas super important, mais oui. On a
elle sait où aller, elle sait qu'elle est à s'en surprendre. Enfin, tu vois, c'est...
Ouais, elle mais va oui. dans l'ascenseur où il faut. Peut-être qu'elle lui a dit, mais bon. Ou peut-être qu'elle lui a... Ouais, bon, bref.
Mais en tout cas, voilà, je trouve ça affreux que ce personnage-là, finalement, il s'en sorte. finalement, c'est ma maman. Elle repart avec toutes mes sœurs et mon papa à la fin. Ils sont heureux jusqu'à la fin des temps. Donc voilà.
Je sais pas à quel point elle est responsable de la Red Room, mais et puis elle est, elle aussi, une widow. Tu vois, elle a été plus que conditionnée. Elle est passée 4 fois dans la Red Room. pour avant même que Natasha ne naisse, peut-être qu'elle a essayé de se rebeller, tu vois, à chaque fois, ils l'ont fait repasser dans la Red Room. Au bout d'un moment, bah, tu t'es maté, tu vois. Ouais.
J'aurais aimé qu'on découvre que c'était elle qui avait en secret conçu le truc rouge, là, le gaz pour libérer, etc. Tu vois, j'aurais aimé au moins un truc, quitte à en faire une gentille, autant, tu vois, en faire un reveal à la fin, tu vois. Ouais, je crois que ça tombait un peu pour rien, quoi.
Ok. Bon, écoute, on peut faire, on peut passer, je pense qu'on a fait le tour, hein, on peut parler du...
Du
post-générique avant de parler de nos conclusions générales sur le film. Donc, bon, post-générique, s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, j'imagine que tout le monde sait qu'il faut rester quand même maintenant, mais au cas où, on a Yelena qui va sur la tombe de Natacha pour arranger un petit peu les fleurs et puis visiter sa sœur. Et on voit à côté d'elle Valentina de Fontaine, la Madame Hydra, qu'on avait vu...
Val, pour les intimes.
Oui, c'est ça. Qu'on avait vu dans Captain America and the Winter Soldier, oui, à la fin, recruter John Walker, US Agent. Et donc là, on voit qu'elle travaille avec Yelena depuis un certain temps et qu'elle lui donne sa prochaine cible, qui est Clint Barton, Hawkeye. Voilà. Et donc, on comprend que Yelena sera une partie de la série Hawkeye qui doit arriver dans quelques mois avant la fin de l'année, si tout va bien. Donc, cette scène post-générique, qu'en as-tu pensé?
Alors, j'avoue que j'étais un petit peu déçu. Je m'attendais quand même à voir quelque chose plus vers l'avenir des films, en fait. Ouais. J'espérais une post-générique qui soit hors sujet par rapport au film, en fait, hein, qui aille vers, je sais pas, Thor 3, ou tu vois, enfin, peu importe. Et du coup, effectivement, bon, après, c'était très bien, la sœur qui va sur la tombe de Natacha. Et puis, j'étais très surpris, hein, pour le coup, de voir Valentina ici. Voilà, j'espère quand même que cette Yelena sera... retirer des griffes de Valentina pour rejoindre le Shield ou plus les Avengers après. J'imagine que ça dépendra de comment se déroule Hawkeye. Mais voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à en dire. Si, je peux dire que les filles à côté de moi, du coup, que je disais qui étaient à fond, elles ont vu apparaître la tombe de Natasha. C'était « Oh non ! Quoi ? Mais pourquoi ? Ah non, mais c'est vrai !» Elles étaient tellement rentrées dans le film que, genre, elles en avaient oublié que, que Natacha était morte.
Ouais.
Voilà. Et
moi, ça fait un petit peu partie de la raison pour laquelle ça m'a déçu, et ça peut nous permettre de partir sur le film, la conclusion du film. Bon, le fait qu'on la voit dans Hawkeye, ok, c'est très bien, pourquoi pas. Attendons de voir. Hawkeye, en fait, il y a vraiment l'espoir, c'est de voir Clint... en dehors de sa vie de Hawkeye, mais le problème c'est que basé sur les comics, c'est la série Hawkeye sur laquelle c'est basé. Clint, c'est un célibataire qui vit une vie un petit peu pourrie quand il n'est pas un Avengers, et c'est très intéressant de voir le contraste entre sa vie d'Avenger et sa vie normale, sauf que là Clint, il a une famille, hein, il est très heureux. Et on voit, du coup, avec cette scène post-générique, que ça sera après Endgame. Donc, il a retrouvé sa famille. Et donc, je ne sais pas très bien, ça risque d'avoir aucun rapport avec la série de comics en question, à moins que, du coup, la série Hawkeye se situe avant Endgame quand même, et qu'on ne voit pas du tout Yelena. Enfin, bon, bref, je ne sais pas, mais... Je reste dubitatif. Mais au-delà de ça, j'avais parlé dans mes attentes de j'espérais qu'ils, en quelque sorte, qu'ils allaient ramener Black Widow, tu vois, post-endgame, qu'ils allaient montrer qu'en fait, non, elle n'est pas morte, elle est sur Vormir toujours et elle attend qu'on vienne la sauver ou un truc. Et je ne suis pas du genre « Ah, mais je ne veux pas que mon héros préféré meure », tu vois, c'est évidemment, je m'en fous qu'il... Enfin, je m'en fous, ça a beaucoup plus d'impact si Tony Stark est, entre guillemets, vraiment mort au moins pour quelques années. Idem avec Steve Rogers, s'il n'est vraiment plus là ou qu'on le revoit juste avec des caméos ou, tu vois, des toutes petites scènes. S'il les ramène, je suis très content aussi, mais je comprends pourquoi c'est important qu'il reste mort, même si dans les comics, personne n'est jamais vraiment mort et on le sait bien. Mais là, comme on en avait parlé à l'épisode précédent où on parlait de nos attentes, bah, c'est la seule héroïne originale des Avengers et j'espérais qu'il nous donne une raison d'être heureux, de donner du poids à, pardon, à Natasha. Et là, en fait, ce que ça fait, d'une certaine manière, c'est que bah, son film a moins d'importance, finalement. Parce que, bah, de toute façon, elle est morte. Donc, oui, elle a eu... Je trouve qu'ils ont réussi le pari d'étoffer le personnage, de lui donner une certaine épaisseur, de lui donner un historique, un passif. Donc ça, c'est cool. Mais en même temps, à quoi bon, puisqu'elle est morte, tu vois ? C'est un peu... dans le moment du film, c'est genre, ah ouais, c'est cool, c'est marrant, c'est ceci, c'est cela... Mais au final, bah, au revoir. Tu vois, c'est « Ah, ok, c'est fini. » Alors oui, on aura Yelena qui est cool, que je trouve très bien. Mais c'est un peu comme je le disais, bah, on a viré Scarlett Johansson qui commençait à coûter trop cher. Et puis, bah, on l'a remplacée par Yelena, c'est la nouvelle Black Widow. Et tu vois, c'est d'une certaine manière, comme il n'y a pas eu cette ouverture, et peut-être que ça viendra, hein, rien n'est impossible dans les comics. Peut-être que ça viendra et qu'on sera... peut-être même qu'elle sera dans la série Hawkeye, j'en sais rien. Mais, et qu'à la fin de la série Hawkeye, on verra le retour de Black Widow, ça serait top. Mais là, en l'état, ça dégonfle le truc, tu vois. J'étais tout... ah ouais, ok, cool, c'est sympa, elle a une famille, elle a ma chaîne. Mais puis bon, au final, non. Et on a même le comment dire... Ils nous font l'affront de faire siffler Yelena sur la tombe de Black Widow en se disant bah là elle va entendre
elle va entendre la réponse
ouais. Et peut-être ouais. Un truc dans le vent, un petit truc un petit peu subtil, donc tu dis est-ce qu'elle a entendu, est-ce qu'elle a pas entendu, tu sais pas, tu vois, et ça ouvre un truc. Et à la place t'as Valentina qui se mouche, bon, ok, d'accord. Donc voilà, moi dans l'ensemble, cette partie m'a un petit peu déçu, mais ça n'enlève pas les qualités du film, hein, dont on a parlé et sur lesquelles je reste. Je trouve que dans l'ensemble, il est plutôt sympa. Mais par certains aspects, ouais, j'ai été quand même déçu.
Ouais. En plus, je trouve que, bah, comme tu le dis, hein, et puis ça faisait partie des choses que je disais dans ce que j'attendais du film, c'est que le film arrive trop tard. Donc effectivement, ouais. Bah, importe l'épaisseur qu'elle va gagner, entre guillemets, à quoi bon. Donc ça peut faire office de réparation pour le personnage, mais je trouve que ça le fait pas tant que ça. Mais en plus, je trouve qu'on dilue aussi son unicité en faisant qu'à la fin du film, finalement, maintenant on sait qu'il y a 10 000 autres Black Widow partout dans le monde. Tu vois, c'est. Ça fait, bon, on la perd, elle, on en a 10 000 autres. Enfin, tu vois, on pourrait limite faire une série avec que des Black Widow maintenant, tellement il y a de monde, quoi.
Ouais, après la série donc, avec des Loki, les Lokis, on a les Black Widow.
Ouais, c'est ça, les Black
Widow. On
pourrait
avoir la
ouais.
série où elle. La famille de Natasha va libérer les Black Widows. Il y en a une à chaque épisode dans un pays différent. Ça serait bien série procédurale à deux balles.
Mais... Ouais, c'est ça.
Ouais, je suis d'accord. Et imagine si ce film, alors bien sûr avec des modifications, mais si ce film était sorti dans la phase 2, ça aurait été tellement ouais. bien pour le personnage. Bon.
En fait, il aurait fallu qu'il arrive à la place d'Iron Man 2, en fait, tu vois, vraiment.
Ouais, voilà, ça aurait été parfait.
Pas identique, hein, mais ouais, comme tu dis, avec ouais. des modifications, mais ouais, à la place d'Iron Man 2, ça aurait été bien, ouais, d'étoffer le personnage à ce moment-là.
Ouais. Bon, sauf qu'elle est apparue dans Iron Man 2 la première fois, c'est vrai que ça aurait été la bonne occasion de la faire apparaître autrement, quoi.
Ouais, c'est ça.
Bon. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai l'impression que, comme on le disait au début, t'as bien aimé le film, quand même. Parce qu'on a été... Je trouve qu'on a passé beaucoup de temps à le critiquer.
Parce qu'on s'est attardé sur la deuxième partie qui est pas bien. Moi, j'aime vraiment pas cette deuxième partie. Mais globalement, je suis sorti quand même agréablement surpris. J'ai quand même passé un bon moment. Quand j'y suis retourné, la première partie, je l'ai trouvée encore mieux que quand je l'ai ouverte. Et ça m'a aussi permis du coup de mieux faire la part des choses justement de ce qui allait pas dans le film. Mais globalement, je trouve que on va dire que ça reste effectivement au-dessus des films médiocres du MCU, quoi.
Ouais, on est d'accord. On est d'accord sur la qualité objective. Enfin, si j'essaye de juger la qualité objective du truc, je dirais ouais, il est au-dessus de la moyenne. C'est juste que, bah, comme tu l'as très très bien dit, il arrive trop tard et c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, c'est décevant. Et ils n'ont pas rattrapé le truc en disant, alors je comprends pourquoi ils ramènent pas directement Natasha Dvormir, et peut-être que, je sais pas, dans Multiverse of Madness ou un truc comme ça, elle va ressortir et qu'ils peuvent pas en parler, ou que dans les 4 Fantastiques, quand ils vont voyager dans la Negative Zone, il va se passer un truc, j'en sais rien, mais ouais, c'est un peu... Là, en l'état, c'est un petit peu... Et puis, même si elle revient... Non, si, quand même, si... J'allais dire, même si elle revient dans 2 ans, ça sera trop tard. Non, si elle revient dans 2 ans, ça sera... Oh mon Dieu, c'est Natacha, elle est trop forte. Je pense que ça serait cool. Mais bon, on verra.
Et j'espère que, du coup, bah, Florence Pugh va avoir sa chance, la chance que Natacha n'a pas eue, enfin, que Scarlett Johansson n'a pas eue, et va pouvoir, justement, avoir sa place, on va dire, un peu plus forte dans la MCU. Même s'il y a d'autres femmes maintenant, hein, que ça y est, on va dire, le problème n'est pas réglé complètement, mais en tout cas, maintenant, il y a beaucoup plus de films de femmes qui arrivent côté ouais. MCU, donc j'espère que, ce que je pouvais reprocher jusque-là va s'atténuer avec justement la multiplication de ces projets-là, mais ça n'empêche pas, hein, j'espère quand même qu'on aura Yelena peut-être dans un Black Widow 2, tu vois, moi ça ne me déplairait pas, quoi.
Ah, carrément d'avoir un Black Widow 2 sans Scarlett Johansson ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ah oui, d'accord, ok. Pourquoi pas, il faudrait que... Ouais, ça serait un peu... Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est genre, ils l'ont mise au placard parce qu'elle était trop chère. Alors qu'ils payent les acteurs des sommes complètement folles, tu vois. Ouais. Alors, on ne sait pas exactement combien elle est payée, mais je crois qu'il est assez notoire qu'elle est payée moins qu'un Tony Stark ou un Chris, l'un des Chris.
Ouais, bah, peut-être que même que tous les Chris, d'ailleurs.
Oui, que tous les Chris.
Que tous les Chris du MCU.
Mais bon, moi, ce qui me fait un petit peu peur avec Yelena, c'est que on va la recycler dans Hawkeye, et puis on la reverra plus dans les films, tu vois.
Ouais, j'ai un peu peur de ça. Mais tu vois, je me dis peut-être qu'elle va devenir pote avec Hawkeye et qu'il va lui dire, allez, viens, j'ai un groupe de potes au Shield, je t'intègre, tu vois. Mais bon. Ouais. On verra.
Ceci dit, ça va être marrant de les voir interagir, hein, parce que la sœur de Natacha, dont je ne sais pas si Natacha a parlé à Hawkeye, même si c'est son meilleur pote, et bon, bref, je ne sais pas, on verra. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes qui vont se passer dans le MCU, et on sera là pour vous en parler. C'est notre promesse qu'on espère pouvoir tenir.
Ouais, avant de se diriger vers la fin. Je voulais parler très rapidement du film Comment je suis devenu super-héros. Est-ce que tu as entendu parler de ce film
français ?
Alors, c'est un film français de Douglas Attal, hein, qui a fait quelques autres films. Je crois que c'est des comédies avant ça. Et c'est un gros projet dont j'entends parler depuis très longtemps et qui devait sortir malheureusement pendant la pandémie et du coup qui finalement est arrivé sur Netflix à la place. Et du coup, je l'ai regardé hier, et c'est vraiment, vraiment très, très bien. Alors, on parlait du jeu d'acteur français tout à l'heure. On est vraiment dans un mélange que je trouve très, très réussi entre le policier français très classique, avec des thématiques aussi très classiques à ce genre-là, c'est-à-dire les services de police et les jeunes en banlieue, la vie de banlieue, etc. Donc on a une enquête. Donc en fait, on est dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs, hein, tu sais, n'importe qui peut en avoir, c'est pas systématique. Et du coup, on a cette brigade qui, elle, justement, enquête sur les crimes ou les problèmes liés aux super-héros. Et du coup, voilà, il va y avoir cette enquête-là qui va se développer. Et on est dans un monde avec de véritables super-héros, y compris des super-héros à la retraite avec des pouvoirs qui ne marchent plus très bien. Enfin, tu vois, c'est un petit... C'est quoi ? C'est 100 minutes, là, je vois. Donc, ce n'est pas tout à fait 2 heures. Mais j'ai trouvé ça très bien. Alors, il faut vraiment accepter, hein, le fait que ce soit un policier français, parce que, ouais, comme tu le disais, il y a des mimiques et des tics de ce genre-là qui sont très reconnaissables et qu'on va retrouver ici. Mais ce twist super-héros, bah, je trouve que ça apporte super bien. En plus, je trouve que les effets sont très, très réussis. L'image est très belle. Et voilà, moi, je le recommande. J'ai trouvé ça, j'ai passé un super bon moment devant hier, quoi.
D'accord. Comment je suis devenu un super-héros sur Netflix. Très bien, merci beaucoup, Johan. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, dis-moi.
Alors, on peut me retrouver sur Twitter, à YohanT underscore.
Très très bien, pour moi c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez aussi me retrouver sur notepatrick.com où vous aurez des liens vers tous les podcasts que je produis, dont le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu au hasard. Si vous voulez suivre l'actualité de la tech dans la bonne humeur ou du jeu vidéo dans la bonne humeur aussi, toutes les semaines, tous les liens sont sur notepatrick.com. Et bien sûr, on sera de retour pour le dernier épisode de la série Loki, normalement vendredi, ouais. Si tout va bien, puisque ça avance, hein, ça arrive bientôt.
D'après, on n'aura plus rien, Patrick.
Oh, il y a beaucoup de choses qui continuent à arriver, crois-moi. On en parlera justement à ce moment.
D'accord.
Super. Merci beaucoup, Johan. À très
Allez,
bientôt.
Merci, Patrick.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.